Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Parlons Finance. Mais un épisode assez particulier, puisque celui-ci est consacré à la finance verte. Pour cela, Paul Thomassin, notre responsable RSE de la Junior Investment Management, a interviewé Mathilde Mignot, Climate Portfolio Manager chez EcoAct.
Bonjour à tous les trois, bonjour à tous. Alors moi j'ai fait Toulouse Business School donc entre 2011 et 2015. J'avais une spécialité, alors je n'étais pas spécialisée dans la finance, j'étais spécialisée en marketing, mais on va arriver au sujet finance avec la suite de mon parcours. Et j'avais depuis le départ, en entrant à Toulouse Business School, la volonté de travailler sur des sujets liés au climat, enfin à la RSE d'une manière générale, mais principalement aux sujets environnementaux. Donc quand j'ai rejoint l'école, j'ai un peu orienté tous mes stages, hein, enfin les, j'imagine que vous connaissez bien le sujet, mais toutes ces activités entre les cours sur le climat. Donc j'ai d'abord fait deux stages, un avec le WWF, donc qui est une ONG spécialisée sur le climat et sur l'environnement, où mon rôle c'était de travailler sur une stratégie de mécénat, donc comment aller capter des financements auprès du secteur privé pour développer des projets de préservation des récifs coralliens, qui étaient des projets développés par le WWF en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Outre-mer. Donc ça c'était une première expérience que j'ai eue au cours de à la suite de ma L3 pendant 6 mois. Suite à ça, comme j'étais spécialisée en marketing, j'ai également fait un stage de communication au sein d'une autre ONG qui s'appelle Greenpeace, où là, mon rôle, c'était pas de faire de la communication à proprement parler, mais plutôt d'aller capter des financements pour financer des campagnes de communication de Greenpeace, sachant comme c'est une ONG qui est indépendante financièrement, il n'y a pas de dons d'entreprise, donc tout est basé sur les dons des membres, enfin des donateurs. Et du coup, là, l'idée, c'était d'aller chercher dans les médias des espaces gracieux pour pouvoir communiquer sur les valeurs de l'ONG et sur les actions en cours. Donc ça, bah, j'étais assez fière parce que j'ai réussi à lever l'équivalent de 1,5 million d'euros en espace gracieux sur de la publicité en télévision, radio, 4x3 dans les métros, enfin pas mal communiqué autour de l'ONG. Donc c'était une deuxième expérience qui m'a confortée dans l'idée d'aller valoriser des actions liées à l'environnement. Pour autant, après deux expériences en lien avec les ONG et les ministères, j'ai un peu voulu voir ce qui se passait du côté du monde économique, en quelque sorte, et aller me confronter un peu aux actions des entreprises, parce que c'est vrai que j'avais quand même fait une business school
et j'avais envie de voir ce que faisaient les entreprises et quels investissements elles portaient aussi sur ces actions de climat, en quelque sorte. Et donc, pour avoir une vue un peu complète et avoir pas seulement me spécialiser sur un secteur, mais vraiment aller sur plein de secteurs d'activité et voir comment tout type de secteur peut, de l'agroalimentaire au transport, au tourisme, enfin à l'événementiel, un peu tous les secteurs, voir comment ils se positionnaient sur ces sujets climat. Et j'ai fini mon école de commerce, donc j'ai fini Toulouse en 2015. 2015, c'est aussi une année marquante pour la France, puisque c'est la signature de l'accord de Paris, où il y a beaucoup d'entreprises qui se sont positionnées sur ces sujets à ce moment-là, notamment en France. Donc, il y avait une sorte d'effervescence à ce moment-là. Et j'ai rejoint EcoAct. Donc, EcoAct, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur le climat et principalement sur le carbone, en quelque sorte. Donc, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de neutralité carbone. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on se fixe un objectif pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre autant que possible. Et en parallèle, comme on est face à une urgence climatique, comment on investit dans des projets qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Donc, il y a cette logique à la fois de réduction et de compensation, une sorte d'équilibre pour pouvoir faire face à la crise climatique. Donc moi, j'ai rejoint EcoAct en 2015, donc après, en stage de fin d'études. Et j'avais un rôle principalement de business development, donc vraiment aller à la rencontre de plein d'industries et comprendre un peu quels étaient leurs enjeux. Comme je disais, c'est pas les mêmes enjeux quand on est dans le transport ou dans l'agroalimentaire ou dans n'importe quel ou dans l'énergie. Enfin, il y a tout type de challenge pour ces entreprises. Et donc j'ai fait 2-3 ans de business development pour vraiment comprendre les enjeux de chaque secteur. En parallèle, en fait, au cours de l'année 2016-2017, j'étais à la fois, comment dire, je me suis spécialisée en fait sur le sujet de la compensation carbone. Et du coup, ce qu'on amène en quelque sorte à la logique de finance carbone, parce que l'idée de la compensation carbone, c'est comment aller financer des projets qui réduisent ou séquestrent du CO2 par l'achat d'unités qu'on appelle des crédits carbone. Donc, en gros, pour vous simplifier, enfin, pour expliquer de manière très schématique, la compensation carbone, c'est une sorte de mécénat scientifique, je dirais. C'est mettre de l'argent sur un projet, mais à hauteur de son bilan carbone. Donc, si une entreprise émet, j'en sais rien, 100 000 tonnes équivalent CO2 qu'elle n'arrive pas à réduire à court terme, elle peut se dire, bah, je vais à hauteur de 100 000 tonnes équivalent CO2 investir dans un projet, je ne sais pas, de reforestation, un projet d'énergie renouvelable, un projet de biomasse, de biogaz. Enfin, il y a tout un tas de types de projets qui sont certifiés par des standards de compensation carbone. Et l'objectif, c'est d'aller financer ces projets en équilibre de toute une politique de réduction en interne, ce qui crée au global une stratégie de neutralité carbone pour une entreprise. Donc, mon parcours, hein, pour finir mais brièvement sur où j'en suis arrivée, comment j'en suis arrivée là, je me suis spécialisée sur la compensation carbone parce que je trouvais que c'était un sujet hyper concret, le fait d'aller investir dans des projets tangibles où on voyait vraiment les effets et les impacts sur le terrain. Je suis très orientée sur quel est mon impact et à quoi ça sert ce que je fais en quelque sorte au quotidien. Donc là, c'est mesurable et on les suit dans le temps, ces projets-là. Et du coup, petit à petit, EcoAct a grossi, parce que quand je suis arrivée chez EcoAct, on était une petite équipe de 30 personnes. Et aujourd'hui, EcoAct est devenue une filiale du groupe Atos. Donc on a largement grossi sur les 6 dernières années. On a fait de la croissance externe aussi puisqu'on a grossi on a racheté un cabinet au Royaume-Uni, on a ouvert des bureaux aussi à New York. Donc petit à petit, au final, moi je gérais le portefeuille de projets dans lequel on investissait au niveau de la France. Donc ça, c'était en 2016. Et en 2017-2018, j'ai commencé à m'occuper en fait de tous les projets et de tous les achats de crédit carbone pour toutes les entités d'EcoAct. Et du coup, aujourd'hui, en fait, mon rôle, c'est on a créé toute une business unit l'année dernière qui s'appelle Nature Based Solution, donc qui est vraiment sur la logique de solutions fondées sur la nature et qui fait écho avec tout ce qui se dit dans l'accord de Paris d'investir sur les sols, les océans et les forêts. Et donc, au sein de cette business unit, je gère une unité qui s'appelle Portfolio and Partnerships. Et en gros, cette unité gère l'intégralité des portefeuilles de l'investissement dans des projets par EcoAct. Et donc, en gros, on fait tout l'approvisionnement en crédit carbone pour toutes les filiales du groupe. Donc, voilà, à ce stade, c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui.
Très bien. Merci.
On est une équipe au sein de l'unité, on est une équipe d'une quinzaine de personnes et moi, je gère 6 personnes à l'heure actuelle.
D'accord. C'est un très beau parcours. Et c'est vrai que on a des questions, quand vous évoquez notamment sur la gestion de portefeuille, donc c'est celle des filiales vraiment du groupe EcoAct ou c'est alors aussi certains portefeuilles de certains groupes dans lesquels vous intervenez?
Alors en fait, nous, on a pour faire très simple, on a des clients. Donc c'est principalement des acteurs, je dirais, des grandes entreprises françaises, européennes et nord-américaines qui vont vouloir investir dans des projets. Nous, ce qu'on leur crée, en fait, c'est des portefeuilles de projets avec différents types de projets. Par exemple, au sein comment dire, d'une même entreprise, ils vont vouloir sûrement choisir d'investir à la fois dans des énergies renouvelables, mais aussi dans des projets forestiers et peut-être dans des projets avec plus d'impact sociaux. Enfin, les entreprises vont pas vouloir simplement se positionner sur un seul projet. Ils vont pas dire je vais juste investir sur je veux planter des arbres ou quelque chose comme ça. La plupart des entreprises en fait cherchent un équilibre dans leur portefeuille, notamment pour des raisons financières, puisque les crédits carbone ne coûtent pas les mêmes prix selon les types de projets qui sont développés, puisqu'il n'y a pas la même ingénierie de projet derrière, donc ce n'est pas les mêmes budgets. Donc ça répond aussi à leurs contraintes financières, mais aussi à des questions de positionnement, dans le sens où bah, si c'est une entreprise dans l'énergie, en général, ils vont plus chercher à investir dans des projets liés à l'énergie pour que ça fasse sens par rapport à leur activité. Mais après, il y a des entreprises qui aiment bien également avoir tout un choix de projets différents, qui font parfois choisir par leurs salariés en disant bah voilà, on veut en faire de l'investissement sur des projets climat et on veut sensibiliser nos salariés à ces sujets-là. Donc, ils les intègrent parfois dans la décision de choix de projet une fois qu'on a en quelque sorte un peu, je dirais, shortlisté des projets qui rentrent dans leurs critères à eux. Donc ça, c'est des possibilités. Donc en fait, cette logique de portefeuille, elle répond vraiment à la demande client. Et ces clients-là, bah, c'est des grandes entreprises qui se positionnent sur la neutralité carbone.
Vous intervenez vraiment finalement comme un conseiller en fait pour ces entreprises qui veulent changer leur modèle.
En quelque sorte, oui, en fait, nous, EcoAct, EcoAct, c'est sur le marché de la compensation carbone depuis 2005. 2005-2006. Donc en fait aux prémices des marchés volontaires. J'ai pas donné beaucoup d'informations sur les marchés volontaires, mais c'est peut-être le moment de faire un petit point là-dessus. C'est-à-dire que nous en fait on travaille vraiment avec des entreprises qui n'ont aucune réglementation. C'est-à-dire qu'on travaille pas avec des entreprises qui ont des réglementations liées aux quotas d'émissions que vous avez sur les marchés européens. Ça c'est un marché particulier. Nous en fait on travaille avec des entreprises qui disent bah nous on veut investir, on veut de manière volontaire, on veut mettre en place une stratégie de neutralité carbone, mais on veut que ça soit quelque chose de robuste et qui fait sens et qui répond à des critères internationaux. Donc il y a des standards qui existent, qui sont des standards volontaires. Et en fait, depuis la création de ces standards, EcoAct en fait a été créé au même moment. Donc on a vraiment cette expertise et ce recul et cette expérience depuis plus de 15 ans d'avoir vu toutes les méthodologies de ces standards se développer, d'avoir participé au développement de méthodologies et d'avoir aussi également développé nos propres projets. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une compréhension du marché et en effet après d'aller voir des entreprises et pouvoir vraiment leur donner une vision globale du type de projet dans lesquels elles peuvent investir. Et avec un recul bah, sur la logique de prix, mais aussi sur ce qu'on attend, comment le marché va évoluer également. Donc, est-ce qu'elles doivent investir beaucoup maintenant ou est-ce qu'elles doivent prendre leur temps? Donc, il y a vraiment cette logique de conseiller, en effet, c'est notre rôle. Et aussi de les connecter avec des acteurs de terrain qui sont un peu éparpillés partout sur la planète. C'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille avec EcoAct, elle travaille, comment dire, avec un acteur français, et nous, on va réunir des acteurs qui sont à la fois dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, le Kenya. Donc, on fait ce rôle d'aller consolider tous ces projets-là sous un même portefeuille. Donc, c'est aussi un avantage pour l'entreprise de passer par EcoAct pour ce type de contrat, en quelque sorte. Sur la partie légale aussi, c'est intéressant.
D'accord. Et c'est vrai que enfin, vous parlez de crédit carbone. Quelle est la différence donc entre un crédit carbone et par exemple une action qui est dans une entreprise qui respecte les critères ESG? Enfin, comment faire la différence on connaît pas trop nous la différence finalement.
Alors là, on est vraiment sur une logique de. Enfin, ESG, c'est assez global. Vous avez toute la gouvernance. Enfin, c'est assez RSE en quelque sorte. Ça touche un peu l'engagement de l'entreprise. Sur le crédit carbone, on est vraiment sur l'impact environnemental de l'entreprise. Donc, on est sur son impact carbone. Donc, enfin, c'est très précis en quelque sorte. C'est vraiment un sujet parmi les sujets environnementaux, sociaux, gouvernance, etc. Donc, c'est vrai qu'on est très spécialiste d'un sujet, mais qu'aujourd'hui, la logique de toutes les accords internationaux, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'EcoAct s'est spécialisé sur bah, comment accompagner les entreprises pour réduire leurs émissions et pour En quelque sorte, quand on dit compenser, ça veut dire réduire au niveau global, c'est-à-dire aller investir dans des projets qui vont aller séquestrer du carbone. La séquestration, c'est vraiment, bah, par exemple, quand vous plantez un arbre ou quand vous préservez une forêt ou quand vous préservez des sols ou les océans, vous séquestrez le carbone qui est à l'intérieur, puisque quand vous le mettez à mal, en quelque sorte, il se dégage et ça participe de la crise climatique. Donc nous, on est vraiment dans cette logique d'aller proposer cette action au niveau du carbone. Mais c'est une action précise parmi tout un, comment dire, enfin c'est immense le développement durable. Donc il y a tout il y a des tonnes de métiers différents sur des tonnes de sujets différents. Aujourd'hui, nous, on est vraiment que spécialisé sur cette partie carbone dans l'environnement, quoi.
D'accord, donc si je suis bien votre pensée, finalement, vous n'allez pas décider, par exemple, de conseiller à investir dans le groupe Total qui, quand même, engage 10% de son chiffre d'affaires dans les énergies renouvelables. Vous allez vraiment conseiller aux clients d'investir vraiment sur des solutions vertes et durables, peut-être pas, enfin, et financières, mais pas forcément dans des grands groupes comme Total, qui, à côté de ça, séquestrent l'environnement.
En fait, ce qui est important de, peut-être que j'ai pas peut-être bien clarifié, c'est que nous, en fait, on investit dans des projets. Donc, on n'investit pas dans des entreprises qui ont des actions sur, enfin, qui ont des politiques sur l'environnement. On travaille avec ces acteurs-là pour les orienter dans leurs décisions d'investissement dans des projets. Donc typiquement les investissements qu'on va faire, ça va être sur. Je peux vous parler d'un projet par exemple moi qui me tient beaucoup à cœur, même s'il est c'est un peu compliqué en ce moment. Mais en Birmanie, on travaille sur l'investissement. On a investi sur 1000 hectares de plantations de mangroves sur la côte ouest de la Birmanie. Et du coup, l'idée, c'est en investissant dans ce projet-là, nous, on va revendre les crédits carbone à nos clients. Et donc, en gros, ce projet-là va être certifié sous les standards de compensation carbone. EcoAct a investi, mais ça pourrait aussi être un autre acteur, ça pourrait être Total, ça pourrait être un autre acteur économique qui dit, je vais investir, pourquoi? Pour compenser mes émissions. Donc nous, on va vraiment investir sur typiquement un projet de reforestation ou un projet de, comment dire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre par tout type de technologie, par des énergies renouvelables. Donc on va investir dans des projets et c'est nos clients qui vont en quelque sorte mettre l'argent sur la table en quelque sorte pour compenser les émissions qui sont liées à leur bilan carbone sur un périmètre sur lequel ils n'arrivent pas à réduire. Dans le court terme, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair
D'accord, si,
ou.
très bien. Et donc, en fait, finalement, ce client-là, qui va investir, par exemple, imaginons dans le projet en Birmanie, lui, il va pas forcément attendre un retour sur investissement, un retour financier. Ça va être vraiment s'investir pour lui dans la lutte climatique.
C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que je disais, c'est que nous, on travaille avec des acteurs qui font cette démarche de manière volontaire, donc qui ont compris que la logique, c'est de se positionner. Pourquoi? Parce que c'est comment dire, c'est aussi ce qu'attend tout le monde, quoi. C'est ce qui s'est passé aussi au moment de l'accord de Paris. On a dit, il faut que les entreprises s'investissent dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous avez aujourd'hui des entreprises, pas comme Apple aussi, si je reste sur les mangroves, qui investissent massivement dans des projets en Colombie ou dans d'autres pays. Vous avez Microsoft, Google, dans certaines industries, il y a des leaders qui montrent vraiment l'exemple en termes de comment dire d'investissement. Atos, qui est maintenant dont on fait partie, on travaille avec eux depuis un certain nombre d'années. C'est un client historique d'EcoAct. Eux, ils ont compensé leurs émissions et ils investissent dans des projets depuis longtemps. Et ça fait aussi partie de ces, une sorte d'avantage business aussi de pouvoir dire à ces parties prenantes, nous, l'offre qu'on vous propose, elle est neutre en carbone parce que notre entreprise se positionne sur le climat. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui est en quelque sorte incontournable. Et quand je dis que c'est incontournable, c'est parce que toutes les semaines, on a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent, on veut investir dans des projets. Il n'y a pas de retour sur investissement, enfin, financier, en quelque sorte. Le retour sur investissement, c'est le positionnement de l'entreprise en tant que leader sur des sujets climat. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le métier, c'est que on se dit, on est vraiment avec des acteurs qui veulent, s'impliquer sur ces sujets-là.
Très bien. Donc en fait, finalement, on pourrait considérer que la finance dite verte, c'est vraiment la solution attendue pour, enfin, sauver le monde est un grand mot, hein, mais en tout cas pour contribuer à redonner un côté vert, à la planète.
Bah, on attend beaucoup de la part du secteur privé parce que y a des parce que quand ils débloquent des budgets, c'est des gros budgets. Donc moi personnellement, j'ai tendance à et même de mon expérience dans le public aussi, hein, mais à croire qu'on peut vraiment aussi, enfin pas seulement attendre que ça soit. Pour moi, on n'a pas à attendre que ça soit seulement les gouvernements qui se positionnent, qui font des fonds verts pour le climat, tout ce que vous voulez, qu'on essaye d'abonder et qui au final reste pas très abondé. Donc on a vraiment besoin des acteurs du privé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces acteurs, ils s'engagent, ils mettent des budgets sur la table qui sont des budgets conséquents. Et bah, c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Et on espère que ça aille dans ce sens-là parce que, en effet, on ne peut pas compter simplement sur les États pour résoudre la crise climatique.
D'accord, donc oui, c'est vrai, donc cette finance, elle est envisageable pour toute structure, mais à quelle est la, les, enfin, au plus une structure est grande, au plus c'est simple ou pas, finalement, avec des moyens financiers donc colossaux?
C'est pas plus simple parce qu'il y a toujours tout un processus de prise de décision et ça peut prendre plus de temps parce que ça implique plus de parties prenantes. Mais c'est vrai qu'en général, quand la structure est plus grande, les financements sont quand même plus conséquents. Et donc on va sur des gros projets de conservation de la forêt, on va sur des gros projets de bah, d'accès à l'eau potable. Enfin, il y a tout un tas de méthodologies, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est vrai qu'on peut aller vers des financements, sur des financer intégralement des projets, investir en amont sur du développement de projets et pas seulement acheter des crédits carbone en quelque sorte sur le marché volontaire. Mais parce qu'en gros, quand un projet est développé, il peut vendre ses crédits carbone pour continuer à pouvoir se développer avec la vente de ses crédits carbone. Mais il y a des développeurs de projets qui cherchent aussi l'investissement dès le départ pour pouvoir lancer leur projet aussi. Donc, en fonction des moyens proposés par l'entreprise, ça nous permet de faire, enfin, d'avoir plein d'options différentes, quoi.
Très bien. Et donc une question aussi qui serait finalement, lorsqu'on n'appartient pas à ces grandes structures ou même qu'on n'est pas dans le milieu privé comme nous les étudiants, enfin, quels seraient les conseils que vous donneriez à des étudiants, par exemple à TBS ou dans d'autres écoles qui seraient, qui voudraient se tourner vers la finance verte finalement, à leur échelle, quelle est l'évolution qui devrait suivre ces étudiants?
Bah, à l'échelle d'un étudiant, ce que je trouve ce qui est intéressant, hein, enfin, même si en ce moment c'est pas trop le sujet, mais un étudiant il voyage beaucoup. Et donc ce qui est intéressant, c'est de faire son bilan carbone et de regarder quand vous voyagez, c'est quoi votre impact environnemental. Quand vous voyagez pas aussi, hein, mais je dirais que c'est vrai que ça a quand même un gros impact et ça a été beaucoup discuté dans la presse, notamment en 2019. Vous avez eu beaucoup de compagnies aériennes qui se sont positionnées sur la compensation carbone des émissions des vols. Pour moi, ça résonne beaucoup par rapport au milieu étudiant, puisque on a toujours envie d'aller découvrir le monde. Donc calculer par exemple son empreinte carbone, ce qui est pas très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, quand on achète un billet d'avion, on nous donne notre empreinte carbone. Ça peut être aussi à l'échelle d'un étudiant de compenser ses émissions ou de voyager moins. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile quand on a envie de parcourir, enfin d'aller découvrir plein de choses, notamment les universités partenaires, enfin tout ce que vous avez au cours de votre parcours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste de prendre conscience de votre impact environnemental et pourquoi pas acheter vos propres crédits carbone, puisqu'il y a des plateformes qui proposent aux particuliers d'acheter ses propres crédits carbone avec des projets certifiés qui permettent de compenser des émissions sur lesquelles bah, vous savez que vous allez vous déplacer et vous n'auriez pas réduit.
D'accord, très bien. Et donc après, et leur perspective professionnelle pour finalement se tourner vers la finance verte, y a-t-il un chemin particulier ou finalement c'est juste un investissement, quel qu'il soit notre spécialité ou nos domaines de prédilection?
Bah, je pense que c'est vrai que, alors moi, j'ai pas fait je dirais que j'ai un peu tout appris sur le tas, mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est en effet de suivre, bah, vous avez des spécialités liées à la finance. Je sais pas si vous avez des cours spécialisés sur la finance verte, mais en tout cas, il y a clairement des cours en ligne. Et puis, je pense que enfin, c'est avoir les bases de la finance, c'est nécessaire. Après, il n'y a pas de parcours particulier. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, si c'est vraiment le sujet finance qui peut intéresser un étudiant, c'est d'aller regarder un peu quels sont les grands fonds d'investissement qui vont faire de l'analyse de projet, de l'analyse de business plan, aller voir comment investir dans des projets, qu'est-ce qui fait qu'un projet est robuste et qu'il faut investir dans ces projets-là. Donc en gros, avoir tout ce background et tout ce bagage que vous apprenez en école de commerce sur la finance et aller l'appliquer à des acteurs qui orientent cette finance sur des investissements verts. Et vous en avez plein. Et y a beaucoup d'acteurs, enfin, il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui qui se créent. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de fonds qui se sont mis en place. Les grandes entreprises créent leurs propres fonds aussi en interne. Donc, parfois, les entreprises appellent même leurs fonds fonds Nature-Based Solution. Donc, on sait qu'ils vont investir sur des projets forestiers. Donc, vous avez à la fois des fonds d'investissement spécialisés. Et à la fois des entreprises, des grandes entreprises qui ont leurs fonds. Donc je pense qu'il y a. Et après, vous avez des acteurs comme Equact qui aussi investissent ou conseillent des entreprises sur comment investir. Et du coup, je pense qu'il y a plein de chemins différents, que la finance, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc honnêtement, faire la. Et ça, je m'en rends compte moi aussi pour ne pas avoir fait la spécialité finance, mais je pense que c'est vraiment une spécialité qui peut apporter beaucoup pour avoir le bagage un peu de base et après l'adapter au sujet climat. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment en ce moment un milieu qui est effervescent, où il y a des tonnes d'opportunités professionnelles. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se positionnent. Donc après, c'est aller voir quelles sont les entreprises qui sont un peu leaders en termes de développement de fonds et les entreprises qui ont déjà développé des fonds, les fonds existants. Et voir un peu où vous pouvez vous positionner. Mais c'est vrai que avoir ce bagage financier dans son parcours scolaire est clairement, enfin, ça peut clairement aider et faciliter, enfin, le début de carrière. Après, c'est vrai que c'est beaucoup des choses qu'on apprend au cours des premières années de carrière et puis petit à petit, quoi. Mais en tout cas, il y a de belles opportunités. Il y a de plus en plus de fonds qui se créent, notamment sur les océans, puisqu'on est en train de rentrer dans la décennie des océans. Sur les forêts, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment de quoi faire.
Très bien. Bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces réponses-là.